Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ça s'agit chez les Apaches. Bonjour à tous nos chroniqueurs, bonjour Frédéric, comment ça va?
Super la patate.
Anne-Christine en forme?
Ça a l'air d'aller, vous avez le sourire.
Oui.
Bonjour Fabrice.
Ouais, bonjour Nicolas.
Vous avez passé une bonne semaine?
Oui.
Et on accueille aujourd'hui Julie. Bonjour Julie.
Bonjour les Apaches.
Donc Julie, voilà, qu'on va interviewer en fin d'émission, car elle intervient sur nos ateliers, on vous en dira plus à la fin de notre émission. Voilà, on voulait passer un bonjour à Claude. Claude qui est parti, qui a déménagé, qui a été à Autun, je sais pas s'il nous écoute. En tout cas, on voulait juste lui faire un petit coucou. Voilà, salut Claude. On excuse aussi Michel qui a pas pu venir aujourd'hui, qui était une de nos cuisinières, hein, avec Anne-Christine. Voilà, elle est pas là, peut-être qu'elle nous écoute. Bonjour Michel. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on a Anne-Christine, notre chronique culinaire, qui va nous parler du filet mignon en croûte. Ensuite, on a Fabrice qui va nous faire sa chronique culturelle sur...
Jean-Jacques Goldman.
Gigi Goldman. Et Frédéric qui finira par la question un peu philosophique, hein, si on peut dire, c'est le temps qui passe, comment tout à chacun on vit, voilà, les années qui s'inscrivent sur notre visage, sur tout ça. Je suis vachement mal à l'esprit du temps. Tout de suite, on commence... Anne-Christine, le filet mignon en croûte, à vous Anne-Christine.
Pour faire le filet mignon en croûte, il faut faire griller dans une cocotte avec de l'astra, de l'oignon, de l'ail. Une fois que c'est chaud, on met la viande dedans.
Donc on met tout ça dans notre cocotte.
On met tout ça dans la cocotte.
On fait
salé, poivré. Du thym, du laurier.
On fait cuire comment alors, Anne-Christine?
Feu doux.
On fait revenir nos oignons, tout ça, dans l'astra.
On fait revenir tout ça, on met des lardons dedans. Mmh. Une fois qu'on a fait tout ça, on sort plat.
Ok.
Mais une fois, pour faire sa sauce, elle met... de l'eau chaude dans une casserole.
D'accord.
On fait chauffer l'eau pour et après on met l'eau dans la cocotte avec la viande.
D'accord, ok. Dans la sauce, on n'ajoute pas un petit peu, je sais pas,
si,
du lait ou du vin.
On met de la crème au dernier moment.
Ah, ok.
Et puis on met du sel, du poivre à la fin. Et une fois qu'on a fait tout ça, on retire les oignons, l'ail, on met dans un plat.
Ouais.
Après, on met la viande dans un plat. On verse la sauce dans le plat aussi.
D'accord.
On préchauffe le four avant.
Alors, on préchauffe.
200 degrés.
200.
À 6, 7.
Ok.
Après, un filet mignon, ça cuit super vite.
Combien de temps en gros?
Je dirais au moins 47 minutes.
Ok, 47 c'est précis.
Oui. Une fois que c'est cuit, on l'enlève. Et puis après, c'est une...
Alors c'est pour la croûte, Christine. Comment on fait
croûte,
alors?
C'est la pâte feuilletée.
Ouais.
Prends le rouleau à pâtisserie. Prends bien étaler la pâte. Elle pose son filet mignon sur la pâte. On enroule la pâte sur le filet mignon avec un petit bol. Elle met de l'eau pour rafistoler les bouts de pâte.
Au pinceau, non? Avec un pinceau, non? C'est pour rafistoler les...
Avec l'eau, on ravale les morceaux.
D'accord,
pour dépasser les doigts dessus. Puis après, elle met l'œuf battu. Il faut bien battre l'œuf. Puis après, elle peint en pinceau la pâte sur une plaque bien burée. Puis elle passe au four.
Combien de temps alors après pour la pâte au four?
45 minutes.
45 minutes de cuisson de viande et 45 minutes pour la pâte. Ok. Il sera pas trop cuit.
Non.
Super. Avec comme accompagnement, on peut
avec
mettre quoi,
des pâtes.
Des pâtes. Oui. Nickel, merci Anne-Christine. Merci. Oui. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez de ce filet mignon là?
Bien bon.
Ça a l'air bien bon.
Ça a l'air bien bon.
Ça a l'air bien bon. Merci Anne-Christine, super, super. Alors attention, la transition, pardon, est pas facile à faire. Hein. Après le filet mignon, on passe Fabrice à
Gigi Goldman.
Gigi Goldman. Attention, un petit jingle peut-être, Frédéric. Je te donne.
Il a chanté avec Michael Jones.
Michael Jones, ouais. Alors est-ce qu'il a commencé comme ça? Fabrice, non? L'autre jour, vous m'aviez parlé de son premier groupe que je connaissais pas, qu'il avait.
C'est Typhoned.
Typhoned.
Avec son groupe de Typhoned.
Ok.
Quand il était plus jeune.
Et on est en
dans les années 75.
75. Okay.
Dans les années 70, quand il était plus jeune.
Alors, quel âge il a, Jean-Jacques Goldman? Il est né en quelle année?
Il est né en 1951.
Oui, il est plus tout jeune, hein? Mmh. Il est plus tout jeune. Ok.
Maintenant, il a 65 ans.
65 ans, maintenant. Ouais, ouais. Un retraité, hein, on peut dire, parce qu'on l'entend plus trop, hein, Jean-Jacques.
Bah
alors,
oui.
Juste, j'interviens juste, hein, parce que les dernières nouvelles qu'on a eues, après on reprendra dans l'ordre chronologique, mais les dernières nouvelles, il serait où, Jean-Jacques Goldman, là? Il n'y avait pas eu un truc, non, Fabrice, ça vous dit rien?
Et toi?
Ben, je crois que j'avais entendu qu'il était parti à Londres.
Moi aussi, j'ai entendu.
Alors, pourquoi? J'ai bien ma petite idée, mais bon... On revient à la chronique.
Il devrait en faire encore, hein. Il devrait chanter encore.
Bah, pourquoi pas? Bah ouais, pour tous ceux qui l'aimaient bien, ouais, pourquoi pas. On repart dans les années 70 avec Typhoon.
Ouais.
Après, qu'est-ce qu'il fait, Fabrice?
Quand il était sans sa carrière solo.
Allez, quand il entame sa carrière solo, il commence par quoi?
Il a commencé, il suffira d'un signe. En 1981.
Ok. Donc c'est un album qui sort, c'est juste un titre.
Il a fait quelque chose de bizarre.
Okay.
En 1981.
Donc là on est plus sur le même album. Hein. Il enchaîne les albums. Est-ce qu'au début il a cette popularité qu'on connaît, Fabrice? Pas trop, hein, je crois pas. Non, je crois pas. Au début il est pas trop connu. C'est à partir de quel album qu'il commence vraiment à être connu, Fabrice?
Dans les années 1987.
Ah, peut-être. Avec quel titre alors?
Avec tout seul, il a chanté.
Ouais, quand il était tout seul. C'était pas le morceau. Alors après, je suis pas un super fan de Frédéric. C'est quel titre qu'il a fait connaître un peu, Jean-Jacques Goldman, là où il a explosé un peu?
Je sais qu'il a fait pas mal. Il a fait aussi ses morceaux. Fais ma famille. Mais en
tu
année 88.
Fais de ma famille en 1986.
Ok, ok.
Plutôt 87. Et là, c'est plutôt. Peur de.
Il a chanté La vie pas pour curation dans les années 90.
Alors là, ouais, voilà, on est un peu plus...
découvrir,
ouais.
Avec Jones qui a fait découvrir.
Je marche seul. Il a commencé dans les années 85.
Dans les années 85, alors là, il est déjà quand même bien populaire. Hein.
Ouais, mm. il était populaire.
Ouais,
là,
ouais,
hein.
Ouais. Mm. Et ensuite, après 85,
Il a fait Patois.
C'est ça.
La deuxième phase, c'était Compas sur moi.
Ok, de son 45 tours. À l'époque, on écoutait des 45 tours.
Il a fait aussi là-bas aussi.
Il a commencé là-bas en 1987.
Et puis donc, il y a cet album, hein, dont on parlait l'autre jour, où ils étaient trois.
Hein? Ils étaient trois dans les années 90.
Et alors, les deux autres, ces acolytes, c'était comment leur nom, enfin,
c'était Michael Joss.
Voilà, c'est ça.
C'était
une dame qui chantait super bien, un peu gospel, tout ça, là. Frédéric.
Ah, Frédéric.
C'est Carole Frédéric.
Ah, Carole Frédéric.
Super. Super. Donc là, cet album aussi, il a cartonné, hein.
Il a pété cet album.
Il a pété cet album, tout à fait, Fabrice. Il a pété. Il y avait quoi comme titre sur cet album?
Ah, j'en connais.
Des actes manqués.
Ouais.
Dans les années 91.
Quoi d'autre?
Il a fait aussi C'est pas de l'amour, okay. Dans les années 91.
C'est ça. Et il y a eu un, deux, trois également.
Il a fait un, deux, trois dans les années 91.
Mmh. Et il est en 17 ans, en Erstadt, c'est également de l'album.
Ah, vous êtes des super connaisseurs dans Jean-Jacques Goldman. Hein.
Il y a lui qui est à l'intérieur, que c'est le dernier titre de l'album. Okay.
Okay. Il a fait encore... je cherche.
Allez-y.
Il a fait.
J'avais une question à vous poser, Fabrice.
Et j'en ai une de question.
Il a fait Tu me manques.
D'accord.
Dans les années 92.
Ce Jean-Jacques Goldman, il a aussi écrit pour pas mal d'autres artistes.
Oui.
Non, vous connaissez un peu les artistes pour qui il a écrit?
Sur Pascal Obispo.
Ouais. Mmh.
Sur De Palmas.
D'accord. Okay.
Céline Dion.
Sur bien. Céline Dion. Sur Johnny Hallyday.
Il y a aussi Patricia Cass.
Patricia Cass.
Ok, ok. Et puis, il a fait un truc aussi, je trouvais qu'il était important, signaler, avec Coluche, vous savez.
C'est là qu'il faut en parler.
Frédéric.
Il avait fait les Restos du cœur avec Coluche.
Voilà,
il y a aussi un mec qui a fait
les Enfoirés.
C'est ça, il a créé les Enfoirés.
Il a créé, il a écrit les Enfoirés.
Ouais, voilà, avec la chanson là, où il parle un peu au début, il y avait plein de vedettes à l'époque qui reprenaient les paroles et tout ça. Ça existe encore. Mais je crois que cette année, si j'ai entendu, cette année.
C'est. Absolument. Ouais. J'ai entendu dire qu'il a voulu abandonner.
Il a arrêté les restos, ouais. Lui.
Le créateur voulait arrêter. C'est pour les raisons que je connais plus.
Super, Fabrice. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce que vous voulez ajouter d'autres trucs sur Jean-Jacques Goldman? Moi, je me rappelle, Fabrice, d'un clip que je voyais qui m'avait marqué où ils étaient sur scène. La scène, elle montait comme ça et ils étaient attachés par les pieds. Et ils continuaient à jouer et tout ça. Ils étaient carrément perpendiculaires au sol.
Ah, ça, j'ai vu ça.
Ça m'avait marqué.
Ça, j'ai vu.
Autre chose, Fabrice, sur Jean-Jacques?
Il a commencé C'est ta chance.
C'est ta chance, ok.
Ouais.
Ok.
Il a commencé Puisque tu pars.
Puisque tu pars, quel mélancolique ce Jean-Jacques.
Il a commencé la deuxième passe, c'était Les Gris Foncés.
D'accord.
De l'autre côté de la pochette, c'était Les Gris Foncés.
Entre Grécaire et Gréco-Français, je crois.
Il a commencé Il changeait la vie.
C'est ça.
Il en a fait plein, hein.
Il en a fait plein. Hein, on pourrait passer notre après-midi.
Peur de rien blues également.
Peur de rien blues, ouais, je connais ce morceau. C'est un beau morceau, ça.
Il changeait la vie en 87, je crois. Voire 88, à peu près. Peur de rien blues entre... sur 88, précisément. Ouais, puis il n'a pas eu beaucoup.
Super, Fabrice. Je pense qu'on peut arrêter là sur Jean-Jacques. Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Là, ouais.
Merci, Fabrice.
J'ai envie d'aller au toilet, Nicolas.
Alors, tout de suite, on passe à la chronique suivante. Frédéric, la chronique suivante sur le temps qui passe. Une vaste question, Frédéric. Hein.
Voilà. Allez-y. La vie à quoi qu'elle peut ressembler avec le temps qui passe? Enfance, adolescence, troisième âge.
Il y a peut-être quelque chose à
voir. Pas vraiment. Il y a tellement de choses qu'on peut comprendre sur le temps. Le temps qui passe. L'heure, mais aussi ce qu'on doit faire avec le temps. On le manipule pas. On le vit dès qu'il est né. Une seconde, c'est une seconde de passé. Mais une vie avec le temps, c'est encore plus dur. Au niveau de la santé, par exemple, pour pas rassembler le temps. Alors, à quoi que peut ressembler et ce qu'on doit faire avec le temps.
C'est vrai que cette question du temps qui passe, des fois, ça peut être angoissant pour certaines personnes, d'autres. Parce qu'on peut dire aussi que c'est la sagesse, hein. On devient vieux, le troisième âge, comme vous
voilà,
dites.
Voilà, par exemple.
L'âge adulte, le troisième âge, mais on peut aussi, on peut le voir.
Et si, au niveau visagiste, au niveau santé, au niveau émotionnel, qu'on peut ressentir, des problèmes de la vie, des problèmes de santé divers. Parce qu'il y a pas mal de problèmes de santé qui peuvent se lier à ce niveau-là, et on peut créer un handicap, dont un cancer, etc. des choses qui sont difficiles à vivre quand on a cet âge-là, et puis on ralentit, on devient, on peut dire, réduit avec le temps.
Peut-être pas réduit, vous y allez fort, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est sûr que le temps passe, on vieillit, on perd ses capacités, on est moins performant, on va dire, entre guillemets, mais...
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire
L'angoisse avec l'âge.
Ouais,
l'âge, la maturité de l'âge, la création de l'homme. Ouais. Est-ce que l'avenir peut porter des choses qui sont nouvelles ou peut-être plutôt plus prometteurs avec le temps? Parce qu'on peut en faire des tas de choses avec le temps. On s'occupe avec la vie. Le temps, c'est la dépense secondaire d'une nouvelle création.
Dans certaines
chronologie visuelle et attentive de tout le monde.
Je vous coupe, Frédéric, mais il y a dans certaines sociétés où, par exemple, les personnes âgées, elles sont très bien vues. Je veux dire, elles ont la sagesse, elles ont des responsabilités et tout ça. Dans la nôtre de société, Frédéric, qu'est-ce qu'on a comme regard sur les personnes, on va dire, âgées ou sur les personnes vieillissantes?
Plus de fragilité, on peut dire.
Voilà.
Plus de fragilité, moins de droits, on peut dire. Financier, bon, c'est pas tellement un mot, mais on peut le dire quand même, parce que ça fait partie de la vie. Mériter du temps en travail, par exemple, du travail, par exemple, par année, des connaissances, de salarisme, donc tout ce qui est par rapport à la profession.
C'est vrai qu'on arrive à 60 ans, voilà, c'est l'âge
de la retraite. Et puis on commence à avoir plus de liberté, plus de choses. Le temps libre après la récompense, après les connaissances, professionnalisme dans tout ça, et surtout la pratique,
l'expérience,
les connaissances, les potentiels qu'on peut avoir, les difficultés par rapport à tous. Mais par contre, ce que je remarque un peu, plutôt observé, que peut-être que la société commence à nous essayer de faire harceler, par exemple, par quelque chose. Les mutuelles, par exemple, enfin, par un peu parti, parce qu'on peut payer plus cher.
C'est vrai.
Tout dépend si on vit seul ou en communauté, exemple,
ou en couple.
De retraite.
Ouais.
Ou en couple, on peut être veuf ou on peut être toujours marié, quelque part. Mais il y a une chose, quoi, c'est un peu plus compliqué que l'autre. Avant de me taire, parce que c'est le premier et dernier à dire ce que j'ai ici, que l'homme peut ressembler plus tard avec l'apprentissage du passé, et quand c'est le troisième âge, les problèmes de santé accélèrent plus tard.
Ça
va venir de plus en plus en soi,
ça, vous avez
et ensuite décupler des choses qui sont diverses par rapport à ce qu'on a connu dans le passé lointain. Attends, j'ai terminé parce que je fais un peu plus long que prévu.
Non, il n'y a pas de problème. Ce qui me paraissait intéressant dans votre chronique, Frédéric, c'est aussi par rapport au temps qui passe, tout ça, certaines personnes ont du mal à le vivre. Maintenant, on voit de plus en plus de gens qui passent par la chirurgie esthétique, on en parlait, voilà.
Oui.
C'est vrai qu'on a tendance à cultiver un peu l'apparence, le jeunisme, on va dire, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Je pense que d'autres, il y a des, par exemple, il y a beaucoup de stars qui s'en font connaître grâce à ces critiques, on peut dire qu'ils essaient de ressembler à une personne plus rajeunie, c'est d'avoir une peau neuve, quelque part. Mais avec les produits qu'ils mettent, ils sont plus dangereux.
Vous connaissez les frères Bogdanov?
Oui, mais à un passé lointain.
Oui, alors c'est vrai que, du moins, si on prend la chirurgie esthétique, des fois on peut. Moi je plaisante, mais les frères Bogdanov, des fois c'est assez impressionnant. Vous voyez,
mais moi je vois qui c'est, oui.
Vous voyez qui c'est?
Oui.
C'est vrai que. On peut voir un peu les ravages, quoi.
Ils sont horribles, hein. Voilà. Ça se voit tout de suite, hein.
Voilà, Anne-Christine, c'est ce que j'allais dire. Et parfois, la chirurgie esthétique, voilà, pour essayer de ressembler, de faire plus jeune et tout ça, c'est pas forcément très réussi. Et je trouve ça pas vilain, moi, les rides au coin des yeux, les cheveux blancs. Hein, c'est peut-être parce que j'en ai, c'est pour ça, mais voilà, quoi. Un mot pour conclure, Frédéric, cette chronique?
Non, on a encore... bon avis, Nicolas. Par exemple, en cours, j'essaie d'apprendre quelque chose. c'est d'apprendre, par exemple, pour en conclure de ce, de moi, pour moi, pour ma personnalité, que tout cerveau mérite des choses. On peut faire plus que ce qu'on veut. Mais on peut pas tout obtenir avec le temps. D'autres pour le visage, pour se faire refaire une meilleure beauté, ou peut-être par rapport au nez, si tu dépenses si l'accident se produit ou pas. Voilà, on peut avoir une déformation du nez, ça c'est une chirurgie plutôt plus réparatrice.
Voilà, c'est ça, pas ça, pareil. Plus la chirurgie réparatrice ou la chirurgie esthétique,
c'est pas pareil. C'est pas la même chose, mais certaines, par exemple, connaissances dans l'apprentissage au niveau de la chirurgie actuelle qui est avancée dans le milieu du présent. C'est là que c'est un peu important. Pour essayer, par exemple, grâce au laboratoire socialiste, de concevoir le nez et par exemple de reproduire quelque part ceux qui sont accidentés ou plutôt plus en déformation ou autre. Et j'ai fini.
Ok, merci Frédéric, merci. Merci. Tout de suite, voilà. On voulait parler d'une action, d'un projet participatif, pardon. Les établissements de La Page en collaboration avec le collectif La Méandre en collaboration avec La Péniche ont mis en place. C'est parti à partir du moins c'est parti déjà le 3 février avec un atelier qui a eu lieu donc à La Péniche. C'était alors c'est destiné aux aidants naturels, personnes en situation de handicap, mais c'est également ouvert à tout le monde. Tout le monde sans compétences particulières peut venir sur ces ateliers. On a Julie qui nous a fait l'honneur de venir sur l'émission pour nous parler un peu de ces ateliers, parce que Julie, elle est plasticienne, elle intervient, elle anime les ateliers. Donc voilà, Frédéric a prévu une petite interview. Hein, on va laisser la parole à Frédéric et Julie.
Bonjour Julie.
Bonjour Frédéric.
Je suis honoré de vous voir ici présente.
Merci.
Voilà, merci. Et c'est un honneur dans cette émission donc d'être... Voilà, d'être entouré de nous en tant que personne norme. Voilà, enfin bref. Et j'ai des questions à vous poser.
Allons-y.
Et la première, c'est peux-tu nous parler de ton métier de plasticienne ?
Alors, parler de mon métier de plasticienne, c'est toujours un peu compliqué parce que ça demande de faire court aussi. Et donc moi, j'ai fait des études en design. Quand j'étais à Paris et puis après à Lyon, je me suis intéressée un peu plus au théâtre et je travaillais plutôt pour faire des décors dans des pièces de théâtre ou dans des petits films d'animation. Et voilà, j'ai rencontré le collectif La Méandre il y a quelques années, donc qui est un collectif qui fait beaucoup de théâtre de rue. Il y a beaucoup de plasticiens, de photographes, de gens qu'on dit pluridisciplinaires qui font plein de choses, plein d'artistes différents. Et depuis quelques années, je travaille beaucoup avec eux. Et voilà. À peu près.
D'accord. Ouais. Donc j'ai voilà d'autres choses. Et quels sont les décors qui vont être construits ?
Alors les décors. Pardon. Alors quels sont les décors qui vont être construits ? Donc moi j'ai vu la pièce. C'est pas très grave. J'ai vu la pièce il y a pas très longtemps et donc j'ai imaginé plein de choses différentes au niveau des décors. Mais j'avais pas envie d'influencer non plus les gens qui vont faire les ateliers avec moi, parce que les gens ont des milliards d'idées aussi. Donc j'essaie de faire émerger un peu les idées de la part des gens et qu'on construise ensemble ces décors depuis leurs propres idées. Et moi je les aide un petit peu à formuler tout ça et à construire ensemble les décors. Donc pour l'instant, on a fait des cadres qui expliquent un petit peu ce que sont chaque personnage de la pièce en fait. Donc on essaie d'imaginer un petit peu le décor à l'intérieur de chez eux, quel portrait ils pourraient avoir chez eux, etc. Comme un peu des photos de famille et tout ça. Donc voilà, on essaie de fabriquer ça. Pour l'instant, c'était le premier atelier, l'objet du premier atelier.
Ouais. Bah justement, c'est la première question qui m'est venue à l'idée. Et comment s'est passé les premiers ateliers après que les décors aient été construits par la suite, par exemple?
Alors les premiers ateliers, enfin le premier atelier pardon, s'est très très bien passé. Au début, donc c'est sur une plage horaire de 15h à 20h, et au début, donc vers 15h, il y a Nicolas de Winter qui joue dans la pièce, qui nous a présenté pendant quelques minutes la pièce, donc à tous les participants de l'atelier, pour que les gens puissent un peu s'imaginer ce pourquoi ils vont construire des décors. Et ensuite, on a commencé à mettre la main à la pâte et j'ai amené une bonne partie de mon atelier. Donc j'ai amené un joyeux bazar sur les tables et j'ai pris le parti que les gens puissent fouiller et trier selon leurs envies, s'ils avaient envie de mettre une couleur un peu plus en évidence dans leur création, de pouvoir trier les choses par couleur par exemple, et que les gens un peu s'approprient le matériel avec lequel ils vont travailler, toucher la matière, faire émerger des couleurs, etc. Voilà, puis après on a été à fond dans la construction de cadres jusqu'à 18h à peu près. On n'a pas vu le temps passer de 15h à 18h vraiment. Et à 18h, il y a beaucoup de gens qui devaient partir. On était une petite dizaine, quinzaine, je sais plus exactement. Et les gens devaient partir dans ces eaux-là vers 18h. Et après, on a fait un apéritif. Et ça, c'était chouette. Parce que j'ai plein d'amis qui sont venus. Moi, pendant toute la semaine, j'étais dans ce lieu, qui est le lieu de fabrique sur le site des abattoirs. Mmh. Et je construisais un banquet avec la compagnie avec laquelle je travaillais. Donc on était vraiment dans le lieu immergé toute la semaine. Et les gens ont pu se rencontrer, les gens de la méandre, des amis, des gens de la page, et plein d'horizons divers. Voilà.
Et voilà, je vais de dire la dernière qui me reste. Peux-tu nous raconter le début de la première pièce ?
Alors, je pense que je vais pas le faire aussi bien que Nicolas de Winter, parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. La pièce, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard. Le Petit Chaperon Rouge a bien vieilli, il a une bonne soixantaine d'années, donc qu'est-ce que la vieillesse ? On s'est posé la question tout à l'heure, hein. C'est voilà, ça fait pousser la réflexion. Et on se retrouve dans un décor, donc sur scène, chez Madame Rouge, qui est évidemment le nom du Petit Chaperon Rouge, mais qui s'appelle Madame Rouge. On apprend un petit peu son passé aussi à cette Madame Rouge, qui a été catcheuse, ancienne championne junior de Bourgogne. Ça, c'est une anecdote qui m'a beaucoup intéressée. Et je pense qu'on pourra illustrer tout ça avec des masques de catch, hein, dans les futurs ateliers. Et voilà, elle a mis en esclavage deux loups, qu'elle a plus ou moins adoptés, on va dire. Et ces loups produisent de la compote de pommes, car elle a une très grosse entreprise internationale de compote de pommes. Qu'elle vend sur tout le territoire français et vraiment oui à l'international, voilà. Et donc elle développe son activité avec ses deux loups, mais qui sont plus que des employés, on va dire, qui sont un peu sous-payés maintenant. Et je pense que je ne vais pas en dire plus. Voilà.
On aura d'autres surprises à voir sur place, par exemple l'heure de représentation ou d'autres. Ouais, il faut le voir, ça vaut largement le coup. Je vous autorise à l'avenir, si vous avez le temps libre, venez voir cette pièce, c'est très intéressant. C'est très évolutif et magnifique à la fois. Merci beaucoup pour tout.
Eh bien, merci à vous tous. Et la pièce, je rappelle qu'elle sera le dimanche 11 juin 2017. Et que les ateliers, c'est des ateliers tous les vendredis, enfin pas tous les vendredis, pardon, deux fois par mois. Donc le 3 février s'est passé. Les prochains seront les 17 février, les 3, 17 et 31 mars, les 14 et 28 avril, le 12 et 26 mai, puis le 9 juin. Et je m'arrête là. Et je vais quand même faire de la pub, parce que je me permets de faire de la pub, d'être à l'antenne. Le 23 février 2017, à 19h, il y aura un documentaire à la péniche avec l'association Brut Pop. Et il y a Antoine Capet qui sera parmi nous. Et donc c'est musique brute contre culture et handicap, voilà le titre. Moi je l'ai déjà vu deux fois ce documentaire, il est génial. Il fait écho à plein de choses, justement à ta chronique philosophique. Je pense que tu pourras carrément en parler parce que c'est super intéressant. Voilà, et j'arrête de parler. Merci beaucoup à tous, c'était un très beau moment en tout cas. Je suis contente.
Et c'est très honoré de vous entendre tout ça. Merci pour tout. Espérons que l'avenir dans la décoratrice plasticienne dans le monde plutôt théâtral est très évolutif.
Merci beaucoup Julie, merci Frédéric. Alors ça s'agit de chez les Apaches, c'est déjà fini. Oh. Eh oui, ça y est, fini l'émission de février. Merci, hein, merci à Radio Prévert de nous permettre de faire cette émission. Merci à Manon qui est derrière les manettes. Merci à Frédéric. Merci Anne-Christine. Merci Fabrice. Encore merci Julie. c'était Ça s'agit chez les Zapaches. Au revoir à tous, à bientôt.